Vous écoutez RTL.
Il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Il y a 88 ans, jour pour jour, Hergé donnait naissance à Tintin. Et demain paraîtra en librairie la version colorisée du premier album Tintin au pays des Soviets. Monique Younes nous dit dans un instant si c'est réussi. Slimane, le gagnant 2016 de l'émission The Voice, a débuté au Mans sa première tournée. Comment est-il sur scène? Réponse avec Steven Bellery, qui a assisté à ce concert. À suivre également les Express de Charlotte Arrigoni. Et puis côté télévision, la série Glacée, adaptée du best-seller de Bernard Minier, arrive ce soir sur M6 avec Charles Berling et Julia Piaton. Ce sera un des choix d'Isabelle Mauridy-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Le 10 janvier 1929, Hergé inventait Tintin. 88 ans plus tard, en ce 10 janvier 2017, les éditions Casterman choisissent d'éditer une version en couleur du premier album de Tintin. Tintin au pays des Soviets, un album que vous avez reçu colorisé, Monique Younes.
Oui, déjà, il faut dire que Tintin au pays des Soviets avait été édité en 1930, réédité en 1973, sans être manié par Hergé. Et pourtant, si l'on croit son biographe, Philippe Godin, Hergé a longtemps pensé à redessiner l'album.
Vous savez qu'en 1942, Hergé a reçu comme consigne de Casterman de remanier tous ses albums, de les ramener de 120 et quelques pages à 62 pages, de les mettre en couleur. Gros travail. Hergé devait reprendre ses dessins, etc. Donc il a fait ça au fur et à mesure, dans un ordre d'ailleurs un peu aléatoire. Et Tintin au pays des Soviets faisait partie des épisodes qu'il voulait remettre en forme. Il n'a jamais eu le temps de le faire. Le dernier épisode remanié, c'était Les cigares du pharaon en 1954. Tintin au pays des Soviets, à ce moment-là, il commençait à le considérer comme un album d'archives, parce qu'il estimait qu'il fallait montrer d'où il venait, le chemin parcouru, etc.
Donc Tintin au pays des Soviets est resté un album en noir et blanc, dessiné par un jeune homme de 21 ans, au trait hésitant, mais au graphisme remarquable. Un album décisif, puisque c'est ici qu'est née la houppette de Tintin.
Oui.
Et dans les premières cases, le jeune reporter n'a pas encore sa mèche rebelle, ce n'est qu'à la page 7, dans la nouvelle édition, en sautant d'un arbre dans une voiture décapotable lancée à toute vitesse, que la mèche de Tintin s'est dressée et qu'elle est restée comme ça, à jamais.
Alors il paraît que la colorisation actuelle accentue ces petits détails que certains avaient du mal à déceler.
Mais c'est du moins ce que dit Philippe Godin en montrant justement cette case où la houppette de Tintin est décoiffée.
La colorisation apporte une plus grande lisibilité à l'album. Il y a les gens qui le considèrent comme un brouillon négligeable. C'est du noir et blanc, donc on n'a pas tellement envie de le lire. Donc on ne rentre pas dedans. Et il y a les autres qui l'ont lu, qui trouvent un intérêt à voir justement de quoi Hergé est parti, comment il a évolué, très vite d'ailleurs, etc. Peut-être que la colorisation maintenant donnera envie à des gens qui ne l'ont jamais lu, de le lire en tout cas, de le voir avec un charme nouveau.
Et comment s'est faite cette colorisation?
Vous savez, après de longs tâtonnements, c'est Michel Barrault, le directeur artistique des studios Hergé, qui a décidé qu'il ne fallait pas recourir à la même gamme de couleurs franches utilisée par Hergé pour ses autres albums. Il a donc travaillé plus d'un an sur ordinateur à partir de planches originales d'Hergé pour imaginer des couleurs pastels qui correspondent à l'histoire. Les voitures se retrouvent donc avec des carrosseries brunes. Pour l'air, pas de surprise, elle est verte. Quant au ciel, il vous a un petit air militaire avec son gris-bleu crypto-soviétique. En fait, la colorisation de cet album ressemble à celle que l'on fait généralement aux documentaires d'actualité tournés en noir et blanc, comme le fait humblement remarquer Michel Barrault.
On a mis au point toute une gamme de tons qui sont en accord plutôt avec l'actualité de l'époque. On a pu aussi traiter la couleur un petit peu dans l'esprit de ce que Hergé a fait faire à Tintin comme reportage, c'est-à-dire il allait chez les mauvais. C'est très caricatural. Par exemple, on a décidé que tous les mauvais ou tous ceux qui n'étaient pas du monde de Tintin étaient roses. Plus ils s'approchaient de Moscou, plus le ciel devient sombre, lourd. L'œuvre d'Hergé reste intacte. On l'a théâtralisée, on l'a rehaussée, simplement.
Et vous en pensez quoi, Monique?
Écoutez, moi, je vais vous le dire très, très franchement.
Oui, dites-le-moi franchement.
Je ne vois pas l'intérêt. Je suis certaine que tout ça a été fait dans le plus grand sérieux, mais je ne comprends pas ce qu'on y gagne par rapport à la version noir et blanc, qui est vraiment, 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 pour moi, une pure merveille.
Moi, je trouve ça plutôt élégant, mais on y gagne de l'argent, peut-être?
Ben, sans aucun doute. Vous savez, Hergé était un graphiste hors pair, avec un sens du mouvement exceptionnel. Et son travail avec le noir et blanc avait fait de ce Tintin au pays des Soviets un album d'une vivacité incroyable, bourré de références référence aux cinéastes, aux peintres de l'époque. Tout ça est un peu perdu, à mon sens, avec la colorisation. Ça se joue à des détails exactement là où se trouve le diable.
Mais grâce à la couleur, un nouveau public va découvrir Tintin.
Personne n'en doute. Tintin au pays des Soviets sera un succès. 300 000 exemplaires sont mis en place, rien qu'en France, au prix de 14,95 €. Et c'est certain que d'autres tirages suivront. Alors, vous pouvez comparer les deux.
Nous comparerons.
Bien sûr.
Merci, Rémi Thionnes.
Voilà,
les Diables Rouges avec Steven Bellery. Et dans un instant, les audiences de notre télévision et Charlotte Arrigoni pour ses Express.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Un petit tour du côté de nos audiences télévisées de la veille avec Médiamétrie et Isabelle Morini-Bosque.
Qui ressemble beaucoup à celle de lundi dernier. 5 200 000 téléspectateurs pour Clem sur TF1 et 20% du public sur La Une. En deuxième position, L'amour est dans le...
Toute petite remarque, c'est que j'ai été obligé de regarder Clem puisque ma box s'est fait rebloquer depuis maintenant un mois. Voilà.
Arzo.
Si un jour elle pouvait se débloquer, je serais content.
Voilà. Et bien sinon, vous aviez aussi la... Ah oui, non, donc vous n'avez pas pu voir L'amour
captif,
est dans le pré.
Vous voyez, je me tais. Je vais appeler Julien Courbet, je pense, oui.
3 400 000 téléspectateurs pour Karine Le Marchand et L'amour est dans le pré, brillant en deuxième. En troisième position, Castle. Toujours inoxydable, 3 300 000 téléspectateurs, il n'en perd pas un, il n'en gagne pas un, 13% du public sur France 2. En revanche, la vraie surprise, c'est le succès spectaculaire de la rediffusion des Petits Meurtres d'Agatha Christie sur la 5.
Bah oui.
Quasiment 2 millions de téléspectateurs, c'est donc devant Brad Pitt et l'étrange histoire de Benjamin Button sur France 3. Voilà. Et puis sinon, on a Rambo au coude à coude avec 58 minutes pour vivre sur W9 qui est en tête des audiences côté TNT.
On vous retrouve dans quelques instants pour notre soirée télévisée de
Les Express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte. Pour célébrer le 30e anniversaire de son 5e album, U2 fait son grand retour dans les stades.
Oui, cette tournée sera organisée cette année pour fêter l'album The Joshua Tree, vendu à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde. Et à cette occasion, le groupe jouera l'intégralité du disque. Au total, il y aura 26 dates et c'est à Vancouver, au Canada, que le groupe irlandais s'installera en premier, le 12 mai. Il s'envolera ensuite pour l'Europe, avec un passage à Londres le 8 juillet prochain, à Dublin le 22 et au Stade de France, près de Paris, le 25 juillet. Notez bien la date, les places seront en vente dès 10h lundi prochain, le 16 janvier. Bono promet déjà que ce sera un grand moment.
Vous avez vu comment il se cale sur vous, Bono? Alors, il rêvait de réaliser un biopic sur Frank Sinatra, et finalement, Martin Scorsese jette l'éponge.
Projet vieux de 8 ans, mais hélas, le réalisateur s'est heurté aux interdictions de la famille de l'acteur américain décédé en 98. Et évidemment, sans l'accord des proches, impossible de tourner quoi que ce soit. Il faut dire que Martin Scorsese avait envie d'évoquer dans ce film les aspects les plus sombres de la vie du crooner. C'est à Leonardo DiCaprio qu'il avait proposé le rôle-titre.
On va le voir jeudi avec Stéphane Boutsock, notre ami Martin Scorsese, donc on interrogera là-dessus, entre autres. Le géant français MK2 veut s'installer au Canada.
Oui, le groupe souhaite produire, programmer des films et même ouvrir des salles à Montréal vers la fin 2018. MK2 aimerait également reprendre la programmation de petites salles situées dans la province de Québec et qui ne sont pas occupées à temps plein. Rappelons qu'en 2014, MK2 s'était implanté en Espagne et gère désormais là-bas 120 salles.
Que donne le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine Express?
Chanson douce, le Goncourt de Leïla Slimani est toujours numéro 1 dans la catégorie roman, où apparaît déjà à la 12e place le premier titre de la rentrée de janvier. Il s'agit de Celle qui fuit et celle qui reste, le troisième volume de L'amie prodigieuse, la saga best-seller de la mystérieuse italienne Elena Ferrante. Du côté des essais et documents, le trio de tête donne dans l'ordre L'avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon, De l'âme de l'académicien François Cheng et Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson.
Un palmarès complet à retrouver dans l'Express, à paraître demain. Les fans d'IAM peuvent avoir le sourire, le groupe de rap marseillais est de retour.
Eh oui, 20 ans après l'album mythique L'école du micro d'argent, Akhenaton et ses acolytes reviennent avec un nouveau disque, le 8e de leur carrière. Et c'est sur Twitter que le groupe en a fait l'annonce avec ce message. Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie de notre nouvel album, Révolution, le 3 mars prochain. Message accompagné de la pochette de l'album ornée d'un micro en forme de point levé. Rappelons par ailleurs qu'IAM sera en concert à Paris-Bercy les 24 et 25 novembre prochain.
Pour lui, c'est l'équitation. Pour moi, les bastons. Pour lui, la coque. Pour moi, les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger.
Marc Ayam se cale bien aussi avec vous. Donc, tout le monde se cale bien avec vous ce matin.
C'est formidable, c'est bien fait.
Merci Charlotte, c'était les Express de Laissez-vous tenter. Alors, musique toujours avec son premier album, À bout de rêve. Il a déjà séduit 115 000 acheteurs. Porté par ce succès, Slimane, le gagnant de The Voice 2016, vient de débuter sa tournée intitulée On arrive. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous étiez à sa première date au Mans jeudi dernier.
Oui, son bonnet fétiche sur la tête, t-shirt blanc et veste, Slimane apparaît en contre-jour avec le morceau qui ouvrait son album.
Enfant, j'ai vu le blues couler sur les joues d'une femme. Oui, c'est vrai. Mais aussi tant de je t'aime en pansement de l'âme. En pansement de l'âme. L'enfant de la rue est devenu grand. Mais il garde dans son sac ses poèmes d'antan. L'enfant de la rue est devenu grand. Mais il garde dans son sac ses poèmes d'antan.
L'enfant de la rue prend son envol 8 mois après sa victoire au télécrochet de TF1. 3 musiciens, 2 danseurs, des tubes néons colorés pour seul décor. Le jeune homme de 27 ans surprend d'emblée par sa voix pure, plus nuancée que sur disque.
Je te dirais bien oui, mais pour l'amour, le temps me manque. Si elle savait comme j'ai envie, rien qu'une nuit, de poser l'encre. Me laisser verser et renoncer à ma promesse. Papa, maman, si vous saviez, je vis dans l'ombre de ma jeunesse. Frérot, je suis pas d'accord. Frérot, faudra d'abord. Frérot, me passer sur le corps. En la vie, frérot, moi j'y crois.
Très à l'aise sur scène, osant quelques pas de danse, il chante ses failles et ses rêves pendant 1h45. Cette tournée, Slimane en rêvait depuis des années.
Le plus important pour moi, c'est vraiment de voir les gens en vrai, de pouvoir chanter en live. Je viens de cette école-là, j'ai passé des années à chanter dans un bar. Mais quand j'étais petit et que je rêvais de faire chanteur, moi, je m'imaginais sur scène, je m'imaginais pas à la télé. Donc c'est aujourd'hui, finalement, que le rêve d'enfant se réalise. Ouais, je crois que j'ai fantasmé tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie depuis The Voice. Mais en fait, je crois que je m'étais pas rendu compte jusqu'à aujourd'hui, pour être très franc. Depuis tout à l'heure, je suis un peu à fleur de peau. Je me mets à avoir les larmes aux yeux pour rien et tout, parce que je crois que je me rends compte seulement parce qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui viennent écouter mes chansons. Non, la scène, c'est la rencontre. Je compare toujours la musique avec une histoire d'amour. Donc aujourd'hui, le but, c'est de faire en sorte que le couple tienne longtemps.
Slimane évoque sa fragilité. Est-ce qu'elle est aussi palpable sur scène, Steven ?
Oui, le chanteur ne cache pas cette sensibilité. On le sent en permanence sur un fil. Il entrecoupe ses morceaux autobiographiques de reprise. Il revisite Mon ami la rose de Françoise Hardy, Alter Ego de Jean-Louis Aubert, Chanté de Florent Pagny. Les arrangements sont pop électro, mais Slimane offre aussi une parenthèse acoustique piano-voix. Comme à ses débuts, dans les bars de Pigalle, il en parlait. On est tous des immigrés, lance-t-il avant d'entonner Le grand-père.
Il a pris la mer.
Artifice, Slimane a séduit un public éclectique.
Il a des textes très touchants, c'est vrai qu'on s'y retrouve. Il a une voix divine.
Le fait qu'il chante comme si c'était la dernière chose qu'il allait faire dans la vie.
Ouais, la sincérité, l'honnêteté qui dégage.
C'était magique.
Sa voix, sa sincérité. Il y a le partage, quoi. Il donne tout. Il donne tout.
Ouais, banane, banane, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Banane, banane, on arrive. Moi, mes rêves.
En tournée partout en France. Il chantera samedi à Strasbourg, le 19 janvier à Toulouse, le 9 février au Havre, le 15 à Lille ou encore le 14 mai à l'Olympia à Paris. Approché pour participer à l'Eurovision, il m'a confié que ce ne serait pas pour cette année. Slimane, que l'on a vu dans la série Léo Mattei,
très bon comédien,
devrait par ailleurs faire ses débuts au cinéma.
Dites donc à qui on doit cette prise de son absolument magnifique.
Mon petit appareil magique.
C'est bien ce qui me semblait.
Paname, paname, mon ami, prends ma gueule et mon sac à dos. Paname, paname, mon ami, prends mes rêves et mes chansons. Paname, paname, mon ami, arrive.
On quitte le petit appareil magique de Stephen Bellery pour dans quelques instants retrouver notre soirée télévisée et les breloques.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Nous allons terminer en beauté dans la bonne humeur, comme vous l'entendez dans ce studio.
Voilà, surtout avec vos téléphones
portables. Attendez. Ça suffit. Je vous ai fait écouter Lino Ventura dans la bonne année.
Eh bien, justement, j'ai oublié de vous signaler le succès du cycle Claude Lelouch sur Arte, puisque hier, L'aventure, c'est l'aventure, a été suivi par quasiment 1,6 million de téléspectateurs.
C'est pas compliqué, il passe tous ses meilleurs films, c'est un régal à chaque fois.
Oui.
Alors, donc, on va parler de notre soirée télévisée.
Absolument.
Très bien. On rappelle d'abord la déprogrammation de À vos pinceaux, faute d'audience.
Oui, l'émission migre sur France 4 dès aujourd'hui. France 2 propose ce soir à la place, le cinquième élément de Luc Besson, ne cherchez pas le rapport. La chaîne, si j'ose dire, n'est donc plus dans l'huile.
On signale aussi sur la 3, La fin de la nuit, un téléfilm signé Lucas Bellevaux.
C'est une nouvelle adaptation du livre de François Mauriac, La fin de la nuit, dans lequel la bourgeoise criminelle Thérèse Desqueyroux va déclencher une passion dévorante chez le compagnon de sa fille. C'est avec Louise Bourgoin et Nicole Garcia, soit deux raisons supplémentaires de regarder. Et c'est signé, vous l'avez dit, Lucas Bellevaux.
Votre coup de cœur est pour Glace, c'est bien Glace, hein, et pas Glacé.
Glacé.
Ah, Glacé, pardonnez-moi, le feuilleton policier que propose M6.
Et c'est aussi l'hiver, Dieu merci. Oui, on oublie que M6, championne des formats courts, était également autrefois celle des grands feuilletons et d'excellence unitaire à 20h50. Il y avait notamment la série sur qui s'appelait Les Bleus. Elle avait un peu laissé, voire délaissé le genre, donc le genre à 20h50 des grandes fictions, avec lequel elle renoue ce soir. Glacé marque donc son retour vers la fiction de prestige. Il y a quelques images esthétisantes, chichiteuses près, qui ne m'ont pas enthousiasmé. Ce feuilleton est une vraie réussite, adaptée du polar à succès de Bernard Minier, publié chez Fixo. C'est prenant, surprenant, forcément glaçant, surtout lorsque le capitaine Martin Servaz découvre que la victime, vous savez que chaque polar commence par une victime, est un étalon de 600 000 euros retrouvé décapité au sommet du téléphérique d'une station des Pyrénées. L'étalon un cheval.
Bien, oui.
Or, ce drame est arrivé près d'un asile psychiatrique où est enfermé un tueur en série, Pascal Grégory, qui l'avait arrêté lui-même des années plus tôt. Alors, notre capitaine ne veut pas de cette enquête et il l'explique à son ami procureur.
Laisse-moi rentrer, Cathy. Tu sais bien que je suis fatigué.
Ça fait 10 ans qu'il est enfermé. Il sortira jamais, grâce à toi.
Il a fallu qu'il en tue 6 avant que je comprenne.
Martin, Hirtman a trompé tout le monde. Hein.
C'était le parrain de ma fille, Cathy.
Et qu'est-ce que je devrais dire? Ça a été mon collègue pendant près de 12 ans. Je déjeunais avec lui quasiment tous les jours. Je le voyais plus que mon mari.
C'est bien fait, maître.
Hein? Voilà. Comment ce cheval est arrivé là-haut, demande Steven. C'est l'une des problématiques de cette excellente fiction. Martin Servaz et Charles Berling, qui, comme ses partenaires, a dû tourner durant des semaines par des températures négatives. C'est formidable. Dans ces montagnes qui marquent les habitants et donc les acteurs tournant sur place.
Bah oui, justement, l'intérêt, c'est que ça aide à jouer, parce que c'était très, très inspirant. Martin Servaz, ce flic qui est le contraire d'un gars de la nature, vous voyez, qui c'est pas du tout le gars qui va faire des treks en haute montagne tous les week-ends, quoi. C'est le contraire, c'est un citadin qui fume, qui boit, qui, dès le début de l'histoire, eh bien, est encombré par une petite bronchite, parce que, justement, le froid le saisit et la nature le malmène immédiatement. Ça a été très intéressant, justement, de jouer ce type qui... est loin d'être adapté à un climat aussi rude. Tout est fort. On est dans l'humain, on est dans le... Encore une fois, on est dans les Pyrénées. Il y a de l'odeur, il y a du... Donc c'est goulayant, quoi.
C'est exactement ça, c'est goulayant. Alors avec lui, la production a, si j'ose dire, misé sur le bon cheval.
Très drôle.
Il aime tout.
Moi, j'adore faire de la télé. J'ai vraiment adoré ce tournage, adoré l'équipe, Julia Piaton, Nina Meurice, bon, Pascal Grégory et tous les autres acteurs. Vraiment, ça a été un grand bonheur. Et encore une fois, je suis passionné, moi, par l'univers des policiers.
Si je vous donne 5 phrases pour convaincre un téléspectateur plus d'images de vous regarder ce soir, alors que la concurrence est de plus en plus importante.
J'ai le sentiment qu'on a fait une série vraiment extrêmement moderne et en même temps ancrée dans le patrimoine français. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça se vend beaucoup à l'étranger. Je trouve qu'il y a une saveur made in France et en même temps, on ne tombe pas dans de la télé bon marché, quoi. C'est un thriller absolument palpitant. Écoutez, moi, je propose aux gens de regarder 20 minutes et puis ils vont continuer, c'est obligé. On est happé par cette histoire. Et d'ailleurs, la fin va ouvrir sur la saison 2. La fin est hallucinante, je ne vais pas la raconter, mais la fin, c'est hallucinant.
Non, on ne va pas la raconter. On
prend sur parole. J'en parlerai à mon cheval, oui, bien sûr.
Mais je confirme, j'en parlerai à mon cheval. Exactement. Et qu'en pense l'auteur Bernard Minier ? Il n'avait pas peur d'être trahi ?
Bien entendu. La première réaction, c'est l'inquiétude. Quand je me suis rendu chez Gaumont pour assister à la projection, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'étais un peu sur l'expectative. Puis finalement, dès les premières images, qui sont assez fidèles à l'esprit du livre, je me suis complètement reconnu dans ce que je voyais à l'écran. Donc très vite, ces inquiétudes ont été levées. Franchement, j'ai été bluffé par ce que j'ai vu. Et puis dès qu'on aperçoit Berling sur l'écran, on comprend qu'il s'est approprié le personnage et qu'il s'est approprié magnifiquement. Donc j'ai été assez rassuré.
Oui, et moi j'ai été aussi rassurée parce que j'avais beaucoup aimé le roman et vraiment j'ai beaucoup, à quelques images près, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la fiction.
Bah écoutez, vous nous avez donné envie en tout cas de la découvrir. Hein. Merci.
Puis, si je peux me permettre.
Et puis un cheval découpé en morceaux, ça fait toujours rire. Bah oui.
On ne le voit pas,
ça, on ne peut pas parler à l'oreille du cheval.
On le voit ou pas ?
On voit le corps, oui.
Ça ne va pas plaire à Julien, vous savez, il adore les chevaux, il ne faut pas qu'on leur coupe la tête.
Et moi donc ?
9h30, merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter et grand bonjour à Julien.
9h30, merci à toute l'équipe de Ça peut vous arriver et maintenant Stéphane Bern. Et voyez, comme ça on pourrait dérouler la grille très rapidement et on serait tous chez nous à 10h, peinard.
Mais quelle bonne idée.
Mais voilà, mais ça, on n'est pas entendu quand on propose des idées.
Non, voilà, il y a des choses...
Comment allez-vous ?
Bah bien.
Eh bien super, je me suis régalé en vous écoutant ce matin et j'espère que la réciproque sera vraie.
Mais vous savez bien quoi.
Vous ne l'avez pas dit spontanément, j'ai bien vu que vous avez réfléchi.
Parce que vous faites rire, je vous vois en train de vous masser les flancs.
Oui,
là,
je me masse le flanc toujours avant de démarrer.
Ah bon ?
Car je vous le rappelle, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre
super
bien tendue. Allez, merci. À demain matin.